France Inter, Interclass.
Lorsque j'étais joueur de foot à Barcelone ou en Italie, notamment en Italie, dans certains stades, lorsque je touchais le ballon, il y avait des supporters qui faisaient le bruit du singe. L'idée est de savoir pourquoi ils font le bruit du singe. On a fait une hiérarchie entre les personnes selon la couleur de la peau. On a dit qu'il existait plusieurs races et qu'il y a une race qui était tout en bas de l'échelle, c'était la race noire, qui était le chaînon manquant avec les singes. Et ça, c'était enseigné dans les écoles. Donc, ça a construit l'idée que les hommes les plus proches du singe, c'étaient les noirs. Les enfants, c'est très important de discuter avec les gens et les emmener à réfléchir.
France Inter, Interclass, lycée Paul Gauguin à Orléans.
Orléans, quartier de la Source, au milieu des barres d'immeubles, Aïssata et Yaouba, 17 et 16 ans, élèves en seconde au lycée Paul Gauguin, nous donnent rendez-vous sur la dalle. C'est une grande plateforme surélevée et c'est là que tout le monde se retrouve.
C'est une dalle où il y a toutes les personnes de la Source, pratiquement. Parce qu'en fait, c'est regroupé de plusieurs bâtiments.
Quand mes amis me disent de descendre, ils me disent « viens au blanc ». Le blanc, c'est juste en face, là, on va y aller. Et c'est un endroit où il y a un carré, on s'assoit et tout, on parle et tout.
Par exemple, quand on compte sortir, c'est ici qu'on se regroupe.
Moi, j'habite juste en face ici, dans les immeubles verts. Enfin, nous, on appelle ça les IV, parce que immeubles verts.
Il y en a pratiquement 5 des bâtiments verts comme ça. Et c'est là où tous les banlieusards habitent, quoi. C'est là où tout le monde se regroupe à l'intérieur, il y a des dessins. Enfin, c'est pas très propre à l'intérieur, quoi.
Toi, tu l'aimes, ce quartier?
Ah, moi, je l'aime bien. Il y a toujours quelque chose à faire. On s'ennuie pas, en fait, ici.
C'est le meilleur.
C'est le plus mouvementé.
Les gens, ils ont une mauvaise image de nous, c'est tout.
Quand on parle d'Orléans, quand on parle de quartier sensible, directement, c'est la Source.
Et toi, t'aimes pas cette image qu'on donne
Non, pas trop. Surtout pour les stages. On n'a pas le droit de dire qu'on habite à la Source. On met Orléans, mais on n'a pas le droit de dire Orléans, la Source. La Source, c'est un quartier très mal vu. La Source égale drogue, égale voyou, égale banlieusard, égale bandit, quoi. On est souvent dans les faits divers. Par exemple, il y a beaucoup d'histoires de drogue ici, beaucoup d'histoires de bagarres. Les gens, ils ont plus peur de venir ici, par exemple, alors que quand t'es ici, tu peux venir et t'auras rien.
C'est un quartier où il y a beaucoup de personnes.
En fait, parce que la Source, c'est le plus grand quartier d'Orléans. C'est très très grand. Il y a 17 000 habitants, ce qui est très beaucoup.
Et ça que j'aime bien, c'est qu'il y a une bonne diversité de personnes.
On se mélange pas avec les autres quartiers. Tu verras pas de personnes de la Source partir avec un autre quartier. En fait, tout le monde reste à la Source. Bon, là, on est arrivé à 2002. Il y a tous les trafics de drogue, tous les garçons. Et c'est pratiquement là qu'il y a tous les policiers. Et moi, j'habite là. Mon bâtiment, c'est le meilleur de toute la Source. Comme j'habite au 6e étage, là, par exemple, c'est ma fenêtre. Et j'ai la vue sur tout. Donc, quand il y a la police, je suis là.
Et parfois, t'as vu des interventions un peu violentes?
Ah, tous les jours, j'en vois. Tous les jours, par exemple, la dernière fois, il y avait l'intervention des policiers. Même, il y avait des mortiers, là. Tout le monde courait, moi j'étais par la fenêtre, je filmais, ça criait de partout, enfin bref. Pour nous ici, c'est normal quoi, puisqu'on voit ça partout. Du coup ça ne choque plus. En fait ici on peut pas mélanger les policiers, on peut pas dire que tous les policiers sont mauvais. Il y en a des bons et il y en a des mauvais. Et il y a plus de bons que de mauvais, donc ça va.
Mauvais, chez mon thème puis on t'oublie. Chez mon scène puis on grandit. Je nous respecte, toi entière.
C'était un reportage de Manon Derdevet.
Nous sommes au lycée Paul Gauguin d'Orléans-la-Source avec les secondes des métiers de la relation client. Normalement, toute l'équipe pédagogique du lycée qui très gentiment nous accueille. Et merci à vous, Annaëlle Verzeau. Vous êtes reporter à Radio France et vous avez rejoint cette année l'équipe d'Interclass.
Et nous aimerions aussi remercier le CLIMI d'Orléans-Tours ainsi que l'IPJ Dauphine. Et vous, Philippe Magnier, vous êtes président d'une association d'éducation aux médias, Médialogue, ici à Orléans.
Et nous allons passer une heure ensemble avec les élèves de cette classe, mais aussi avec un invité très spécial, Lilian Thuram.
Lilian Thuram qui a accepté de rencontrer les élèves et de débattre un long moment avec eux.
On prise avec Thuram qui récupère le ballon, qui frappe. C'est fait. Oui, le but, je pense.
Extraordinaire frappe à l'entrée des 16 mètres.
Alors je me mets à côté de
Daniela.
Je m'assois là. Tout d'abord, bonjour. Je vais dire des choses. Si vous ne comprenez pas ou si vous n'êtes pas d'accord, il est important de le dire. Ok ? Nous sommes en train d'échanger sur un sujet qui me paraît essentiel.
Bonjour Lilian Thuram, je m'appelle Yaouba Gassama. À quel moment avez-vous décidé de lutter contre le racisme ?
Parce que j'ai vécu un traumatisme lorsque j'étais enfant. Je dis un traumatisme, pourquoi ? Parce que Je suis né à la Guadeloupe. Vous savez où se trouve la Guadeloupe ? C'est très très proche du centre de l'univers. En plus, tu dis ouais. Ça, c'est beau, ça. Je dis que la Guadeloupe, c'est le centre de l'univers. Et lui, dit oui. On va être copains. On va être copains. Je sens qu'il y a un truc qui se passe. Et donc, en fait, je suis arrivé à l'âge de 9 ans à Paris. Et je dis très souvent que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Et là, vous vous dites, tiens, le mec, il n'avait pas de miroir à la maison, il est devenu noir, c'est quoi ? En fait, on devient noir. On devient noir dans le regard des autres. Parce que j'avais 9 ans, et j'arrive dans cette école de Bois-Colombes, en CM2, et en fait, il y a des enfants qui m'ont insulté de sale noire. Ça m'a violenté. Je dis très souvent que j'ai reçu ça comme une morsure, une blessure à l'intérieur, et je ne comprenais pas. Et donc, je rentre chez moi, je demande à ma mère, mais en fait, pourquoi les personnes noires sont vues négativement comme ça ? Et je dis très souvent que ma mère m'a donné une très mauvaise réponse. Elle m'a dit, mon chéri, c'est comme ça, les gens sont racistes, ça ne va pas changer. Sachant quand elle disait, les gens sont racistes, c'était les blancs sont racistes. C'est pour ça que je dis que c'est une très mauvaise réponse, parce qu'elle me faisait croire que tout le monde était raciste. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas changer, que je devais subir ça toute ma vie, c'est comme ça. Et donc, à partir de cela, j'ai commencé à me questionner, à savoir d'où venait le racisme. Et petit à petit, en lisant, en rencontrant des gens, j'ai compris que le racisme, ce n'était pas quelque chose de naturel, en fait. C'est-à-dire, c'est une idéologie qui a été construite à un moment donné de l'histoire pour hiérarchiser les gens selon leur couleur de peau. Et donc, le racisme a une histoire. Et c'est pour cela que, depuis très, très longtemps, j'essaie de comprendre les mécanismes du racisme.
Qu'est-ce qu'une personne racisée ?
Qui est blanc ici ? Toi ? Ok. Toi ? Alors, mademoiselle, vous êtes blanche depuis quand ?
Depuis que je suis née.
Ok.
Depuis toujours.
Depuis ?
Toujours.
Toujours, tu as quel âge ?
16 ans.
On va faire un petit jeu. Cette feuille est de quelle couleur ?
Blanche.
Ok. Est-ce que vous êtes de la même couleur ?
Non.
Vous nous avez dit que vous étiez blanche depuis 16 ans. Est-ce que vous êtes de cette couleur ?
Non.
Alors pourquoi vous dites que vous êtes blanche ?
C'est des termes qu'on nous a appris depuis qu'on est petit. Quand on était petit, qu'on était à l'école, on nous disait « Ah, toi, t'es blanc, etc. »
Exactement. En fait, c'est ça le conditionnement. Ça veut dire qu'effectivement, historiquement, on a construit justement l'idée qu'il y aurait une race blanche. Mais en règle générale, on ne connaît pas l'histoire de ces identités liées à la couleur de peau. Et c'est vrai que ce sont des habitudes. Mais derrière ces habitudes, il y a tout un schéma de pensée. Être enfermé dans des catégories peut être extrêmement dangereuse.
Alors, pour vous, alors, du coup, vous êtes noir ou vous êtes marron ?
Comment ça ?
Comme vous dites, pour les blancs, c'est comme si on disait que vous avez la même couleur que la feuille.
Exactement. Mais moi, si tu veux, moi, je me considère être moi-même. Je sais que des personnes me perçoivent comme noir, mais moi, je sais qui je suis. Et je ne pense pas que tous les noirs fonctionnent de la même façon ou que tous les blancs fonctionneraient de la même façon. Je sais qu'avant d'être noir ou il y ait quelqu'un de blanc, je suis un être humain.
Pour vous, c'est quoi votre couleur de peau ?
C'est marron.
Ah, vous ne dites pas que vous êtes noir, vous dites que vous êtes marron.
Non, tu n'as pas compris. Moi, je suis de marron, de couleur de peau, mais je sais que la société m'envoie à être noir. Est-ce que vous avez remarqué que les personnes métisses ont dit qu'ils sont noirs ? Pourquoi ? Ça n'a pas de sens. Ils pourraient être blancs, parce que généralement, les gens métisses ont un des deux parents noir ou blanc. Mais pourquoi on les renvoie au fait qu'ils sont noirs ?
Noir sur blanc. Mia, j'ai fermé les yeux une seconde et dans le noir j'ai cru ne plus pouvoir te faire confiance. Tout le monde veut savoir qui tu es. Un jour je serai forcé de leur dire que tu n'es que ma conscience. Mes souvenirs refont surface, je n'ai pas le choix donc je les noie. Les idées sont claires, arme blanche prête pour la guerre. Donc forcément tout ce qui suit est noir. Noir sur blanc, j'ai écrit les pensées du ghetto, applaudi par ceux qui ne m'ont jamais soutenu. Et une fois les souvenus, bizarrement de moi beaucoup se sont souvenus. Je n'étais pas l'un d'entre eux, alors autour de moi j'ai dû faire un tri. Les embrouilles et les règlements de compte m'ont appris que violence gratuite a un prix. Et puis quand faut assumer, très peu ne se désistent pas. Et beaucoup ne résistent pas. Nos sœurs ont peur, nos darons pleurent. Parce que dans les ruelles, la compassion n'existe pas. Ce qui ne tue pas rend plus fort, mais ce qui te rend plus fort peut aussi te tuer. Parfois je te regarde dans le miroir et je me demande qui tu es. J'avais les crocs, alors au grand jamais aucun de mes mots je n'ai mâché. Mais je suis tombé de haut lorsque ceux qui me tiraient vers le haut ont fini par me lâcher. Je me suis promis de parler plus fort chaque fois qu'ils voudraient que j'arrête de crier. Si un jour j'arrête de briller, c'est sûrement parce que j'aurais arrêté de prier. Sur chemin de la réussite, souvent amitié ne rime plus avec tout cœur. c'est triste. Dans ma vie, j'ai perdu plus de proches que je n'ai perdu d'écouteurs. La police nous a suivis de près parce que nos rancœurs venaient de loin. C'est toujours ceux qu'on connaît le plus qui de l'autre côté nous connaissent le moins. Pour le liquide, les courants ont asséché. Dans les rues de BX, les méchants se déchaînent. Vendeurs de morts dans le trafic, on a siégé. Regard froid parce qu'en bas du bloc, on se les gèle. Quitter le taudis pour se barrer aux échelles. Fontaine de jouvence dans ma plaque pour rester jeune. Je regrette moins mes ex que ma première PlayStation. Vicieux, discret, méchant et malin, le ciel pourra-t-il me pardonner? Certains frérots sont passés aux infos car d'autres ont préféré en donner. À la base, si je le fais, c'est pour moi, RAF, d'avoir beaucoup d'abonnés. Elle voudrait qu'entre nous deux ça marche, mais mon cœur est encore en randonnée. Ici c'est chacun pour soi, chacun son chacun et chacun son chagrin quand quelqu'un perd la vie. Ces gens voulaient me voir six pieds sous terre, donc les écraser c'est vrai que j'en serais ravi. Mode furtif mis en veille, je n'entends plus la voix dans ma tête. Donc je bois du noir dans la cité, j'arrive seul ou avec le gang. La sacoche remplie de mauvaises idées. Je pourrais douter mais je ne pourrais plus jamais hésiter. Certains ont sorti le fer pour ne plus se laisser faire et ont brisé prières que nos mères ont récitées. Ouais. Mon cœur a ses raisons qui font que je préfère laisser mes couilles décider.
L'un des temps forts de cette saison d'interclasse, donc avec Lilian Thuram, venu rencontrer les élèves du lycée Paul Gauguin à Orléans, c'est celui du racisme.
Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors que c'est un sujet important, qu'on devrait justement en parler aux tout petits. Comme ça, au moins, ça les éduque par rapport à ça pour plus tard. Et peut-être qu'au fur et à mesure, il y aura moins de racisme en France.
Ici, au quartier de la Source, à Orléans, qui est un quartier historique de l'histoire de l'immigration française, on est dans un lycée où, finalement, beaucoup d'origines se côtoient, se mélangent. Est-ce que vous êtes encore attentifs, finalement, aux origines les uns des autres?
J'ai l'impression que, on va dire, les Rebeux et les Renois, ils traînent plus ensemble.
Moi, je suis pas d'accord. Non, moi, je trouve qu'il y a du racisme partout, hein. Que ce soit entre les Noirs et les Arabes ou les Blancs entre les Noirs et les Blancs entre les Arabes.
Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, mais je dis en général, tu as vu, les Rebeux et les Renois, ils traînent plus ensemble.
Non,
qu'avec
moi je trouve
les Blancs.
Non.
Moi je trouve.
Non. Justement, je trouve qu'il y a plus de racisme entre les Arabes et les Noirs plutôt que les Noirs et les Blancs. Parce que moi j'ai plus reçu du racisme par rapport aux Arabes que par rapport aux Blancs. Parce que comme j'habite à la Source, principalement, il n'y a pas beaucoup de personnes blanches à la Source. Du coup. Je ne fréquente pas forcément.
Oui, Sata, tu as été victime de racisme?
Pas forcément du racisme, mais des propos racistes. Des propos qui ne se disent pas, quoi.
Est-ce qu'on vous demande souvent d'où vous venez?
Quand je suis arrivée en France, j'ai plein de gens qui me demandaient « Tu viens d'où ?» Et moi, je leur dis « Saint-Martin ». Ils me disent « Oh, mais c'est où ça ?» Je dis « Bah, c'est français, je suis française ». Ils me disent « Comment ça, t'es française? T'es pas blanche ?» Et après, je leur dis « Bah, c'est les Antilles, quoi. C'est l'Outre-mer ». Il me dit, ah bah, je connais pas, moi je pensais que tu venais d'Afrique. Et la plupart des temps, quand les gens me demandent ça, j'entends qu'ils me disent ça. Ils me disent, je pensais que tu venais d'Afrique, que t'es né en Afrique, que t'as grandi en Afrique. Et les gens, en fait, ils pensent que dès que t'es de la couleur noire, bah, ils vont dire, t'es africaine.
Moi aussi, je trouve ça bizarre qu'on ne demande pas à des personnes blanches oui, de quelle origine, oui, de quel pays ils viennent. Quand on est forcément noir ou. Beurre, bah, on demande forcément d'où tu viens. Alors que, moi, par exemple, ça m'est jamais venu en tête de vous demander d'où vous venez, puisque pour moi, vous êtes forcément français. Du coup, je vais pas vous demander est-ce que vous venez du Portugal ou quoi. Donc, alors que vous, comme vous voyez que je suis noire, bah, du coup, je pense que ça vous intéresse d'où je viens.
Est-ce que c'est du racisme pour toi?
Non,
d'ailleurs?
Pas du tout.
Non.
Pourquoi c'est pas du racisme?
Pourquoi ça devrait l'être?
C'est de l'ignorance.
Ouais, voilà.
Oui, voilà.
L'un des autres sujets de préoccupation des élèves du lycée Paul Gauguin, ici à Orléans-la-Source, c'était le sujet des violences policières. Pour aborder cette question, nous avons choisi de recevoir Thierry Guillet-Doron, qui est le directeur de la sécurité publique du Loiret. Il est venu très gentiment à la rencontre des élèves.
C'est le métier de gardien de la paix le métier le plus dangereux, parce que c'est le gardien de la paix qui est sur la voie publique en permanence, qui ne sait jamais sur qui il va tomber. Je disais, il va faire 1000 contrôles qui vont très bien se passer avec des gens normaux, et puis le 1001e, il va tomber sur quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, qui va lui foncer dessus, ou qui va éventuellement lui tirer dessus, ou il va tomber sur une personne qui a des problèmes psychologiques ou psychiatriques et qui va vouloir tirer sur un policier parce que le policier est en uniforme et représente l'État. On a des policiers qui se sont fait tuer sur des contrôles radars où les gens leur ont tiré dessus alors qu'ils faisaient un contrôle.
Avez-vous déjà eu à gérer des cas de violence policière ?
Oui, alors le terme violence policière, on n'aime pas beaucoup dans la police. On dit qu'il y a des policiers violents, mais la police elle-même n'est pas violente. Et elle utilise toujours la violence légitime. Mais oui, j'ai eu à gérer des cas où effectivement des policiers sont allés un peu trop loin dans leur intervention. Alors à chaque fois, ce que nous faisons des procédures. Nous prenons la plainte évidemment de la victime et nous poursuivons. Alors c'est toujours un échec parce que les gens n'ont pas respecté les ordres, soit ont outrepassé les ordres, soit n'ont pas appliqué ce qui est dit dans la formation. Donc on réfléchit toujours à comment on a donné les ordres, quelles sont les instructions qu'on a données, les notes de service qu'on a faites pour voir ce qu'on peut faire mieux. Si les faits ne sont pas trop graves, s'il n'y a pas eu de faute ou de blessé grave, on fait un débriefing et on essaye de voir pour la prochaine fois pour améliorer le process. S'il y a une faute, on va sanctionner la faute et on va chercher à quel niveau elle est et sanctionner les personnes.
Que pensez-vous de la caméra piéton ?
Alors, les caméras piétons, nous sommes tout à fait pour. Simplement, nous avions un matériel, on va dire, obsolète, en tout cas inadéquat, et nous attendons du nouveau matériel que le ministre nous a promis pour cet été. Donc, nous devrions avoir des caméras piétons de qualité qui dureront, où les batteries dureront beaucoup plus de 2 heures et qui permettront bon fonctionnement sur la voie publique et surtout un fonctionnement durant toute la vacation des policiers qui dure entre 8 heures et 12 heures. Après, la question, c'est de savoir qui déclenchera la caméra piéton, si c'est le policier ou si la caméra piéton devra fonctionner durant toute la vacation du policier. Les policiers sont un peu réservés sur un fonctionnement durant toute la vacation, au moins pouvoir la couper durant les moments de repos, de retour au poste, où ils sont dans la voiture entre eux, où ils peuvent éventuellement vouloir plaisanter, et ils n'ont pas besoin que tout soit enregistré durant tout le temps de leur service.
Quelles sont les affaires qui vous ont le plus touché ?
En tout début de carrière, c'est une affaire à laquelle j'avais participé, un accident d'avion, le premier A320 qui s'était crashé à Mulhouse-Apsheim et pour lequel il y avait eu 3 morts dans l'avion. Et après, les affaires récentes ici, c'est l'affaire du bébé de 5 ans, par exemple, qui a été tué par ses parents. C'est des choses qui marquent et qui sont difficiles parfois à vivre pour nous et pour lesquelles nous sommes suivis. Donc nous avons des psychologues de soutien qui peuvent venir voir les équipes qui s'occupent de ces enquêtes et les aider à mieux supporter et à relativiser les choses.
Avez-vous déjà eu à gérer des affaires majeures comme les meurtres ?
Oui, des homicides. Alors ici, on a 600 000 habitants et on en a à peu près 2 par an. Ici, ce qu'on a eu, c'était l'année dernière, c'était un règlement de compte pour des affaires de trafic de stupes où à la source, notamment, on avait tiré sur un homme qui était gravement blessé. Et on avait une autre affaire au Blossière où on avait un blessé à la jambe, là aussi suite à un règlement de compte en matière de trafic de stupes. C'est souvent dans des affaires de trafic de stupes qu'on a des homicides, ou alors dans des violences intrafamiliales entre époux, souvent sur fond d'alcool ou de drogue, mais souvent d'alcool, et où malheureusement la femme décède sous les coups du mari, ou plus rarement le mari sous le coup de couteau de son épouse.
Est-ce que le fait qu'il y ait plus de policiers d'origine africaine va changer la relation avec les citoyens ?
Alors oui, je pense que c'est important que la police soit la couleur de la population et j'engage tous les jeunes, de quelles que soient leurs origines, du moment qu'ils ont la nationalité française, à s'engager dans la police ou dans la gendarmerie, parce que nous en avons besoin. Ils pourront faire changer les choses de l'intérieur. Je pense qu'aujourd'hui, la police est bien formée et sera encore mieux formée dans les mois et les années qui viennent suite au Beauvau de la sécurité où on va revoir encore la formation. Mais je pense que c'est important qu'il y ait des gens issus de toutes les origines qui soient dans la police pour faire bouger les choses. On voit bien qu'avec les femmes qui sont rentrées dans la police il y a 30 ans, la police est beaucoup moins sexiste aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on disait la police, un métier d'homme. Aujourd'hui, ça viendrait à l'idée de personne de dire ça. La police ne peut pas être entièrement blanche et issue des beaux quartiers. En plus, la police a un système de recrutement et un système d'avancement interne qui permet à quelqu'un de commencer gardien de la paix, de passer officier, de passer commissaire et tout est possible dans la police, que ce soit au niveau externe, en rentrant directement comme commissaire de police ou officier de police, en rentrant à la base et en montant petit à petit. Il y a un ascenseur social réel dans la police nationale.
Bonjour Lilian Thuram, je m'appelle Moussa Tajini.
Je m'appelle Walia. Est-ce que pour vous, la police française est raciste ?
À chaque fois que je parle un peu de la police dans les médias, après je me fais gronder. Et je vais répéter encore une fois ce que je dis. Selon votre couleur de peau, vous allez être plus ou moins contrôlé. Donc c'est pas juste. Et encore une fois, parce que l'idée c'est pas la police. Parce que la police représente quoi ? Représente l'État. Ça veut dire que l'État accepte que selon votre couleur de peau, vous n'ayez pas les mêmes relations avec la police. C'est ça le vrai problème. Donc est-ce que la police se comporte exactement de la même façon avec les personnes selon leur couleur de peau ? Non. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle ici en France, le contrôle aux faciès. Et le contrôle aux faciès a été dénoncé aussi par la Cour européenne. Parce que le contrôle aux faciès, ça vous renvoie l'idée qu'effectivement, vous n'êtes pas considéré comme tout le monde. Si vous voulez savoir pourquoi la police ne se comporte pas de la même façon, ben il faut questionner l'histoire. Et historiquement, vous allez voir qu'effectivement, depuis très très longtemps, on a construit l'idée qu'il y aurait des personnes plus dangereuses que d'autres. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut questionner ces catégories pour pouvoir en sortir. On se dit « je suis qui je suis », mais on ne sait pas comment on est devenu. Par contre, ce qui est très intéressant dans le conditionnement, c'est que c'est très compliqué de s'en détacher. Par exemple, si je te dis... tu connais Christophe Colomb ? Fermez les yeux. Vous fermez les yeux. Vous avez les yeux fermés ou pas ? Ok. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Vous imaginez Christophe Colomb qui arrive vers les Amériques. Donc, il est sur le bateau. Est-ce que vous voyez sur le bateau ou pas ? Ok, vous êtes sur le bateau. Il y a des gens sur la plage. Vous voyez les gens sur la plage ou pas ? Est-ce que les gens sur la plage disent que Christophe Colomb a découvert l'Amérique ? Ah ben pourquoi vous dites que Christophe Colomb a découvert l'Amérique alors ? Ben c'est ça le conditionnement. Et donc effectivement, les gens sur la plage ne racontent pas la même histoire que Christophe Colomb. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire racontée par les gens sur la plage ? Ben ce serait intéressant, non ? Ok, ben en fait c'est ça le conditionnement. Questionner les messages qu'on reçoit pour ne pas reproduire de génération en génération certaines choses.
Alors, bonjour.
Bonjour.
Avez-vous déjà été victime de racisme ? Si oui, dans quelles circonstances ?
Lorsque j'étais joueur de foot à Barcelone ou en Italie, notamment en Italie, dans certains stades, lorsque je touchais le ballon, il y avait des supporters qui faisaient le bruit du singe. Ok. Vous faites... Oh là 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 là. Ok. L'idée est de savoir pourquoi ils font le bruit du singe.
Parce que le singe est noir.
Par rapport au nez.
Par rapport au nez, d'accord.
L'homme descend du singe, non ?
L'homme descend du singe.
Parce qu'il est brutal.
En fait, peut-être que vous ne le savez pas, on a fait une hiérarchie entre les personnes selon la couleur de la peau. On a dit qu'il existait plusieurs races. Et qu'il y a une race qui était tout en bas de l'échelle, c'était la race noire, qui était le chaînon manquant avec les singes. Et ça, c'était enseigné dans les écoles. Donc, ça a construit l'idée que les hommes les plus proches du singe, c'étaient les Noirs. Sauf que les supporters ne le savent pas quand ils le disent. C'est pour cela que je dis qu'effectivement, il y a des habitudes de dire, de faire. Ces habitudes vont traverser le temps, qui vont arriver jusqu'à nous, mais qu'on ne sait pas pourquoi on le dit. Et par exemple, ce qui était très intéressant aussi, c'est que moi, quand je rentrais dans les vestiaires, il y avait toujours mes coéquipiers qui me disaient « Ouais, Lilian, c'est pas grave, ça va, laisse tomber. » Mais c'est super dangereux. Parce que le fait de dire que c'est pas grave, ça veut dire que ça peut continuer.
Monsieur, est-ce que vous pensez que le racisme est en régression ou en progression ?
Ça, c'est une très bonne question. Notre pays, la France, a connu le racisme d'État pendant plus de 250 ans. Ça veut dire pendant plus de 250 ans, il y avait des lois racistes en France. Mais les gens, ils ne le savent pas. Aujourd'hui, par exemple, en France, il n'y a pas de loi raciste. Et ça, c'est une diminution. Ça veut dire que, par exemple, les choses avancent, mais il y a des gens qui ne veulent pas que les choses changent, de tout temps. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu des débats, par exemple, sur la fin de l'esclavage, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, qui disaient « mais non, on va pas les laisser libres. De toute façon, s'ils sont libres, qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Et puis, s'ils sont libres, ils vont s'attaquer à nous. Et donc, ta question est très intéressante. Donc, ça veut dire qu'il y a des avancées, il y a des films, il y a des discussions. Mais il y a aussi, chaque fois, des reconstructions de catégories qu'on délégitime dans la société. Et ça, il faut faire très, très attention.
Bonjour, je m'appelle Maëline Thury. Est-ce que vous pensez que le racisme anti-blanc, il existe? Et si oui, sous quelle forme?
S'il y a du racisme anti-blanc, qui sont les racistes anti-blancs?
Ça peut être les blancs vers les blancs.
Ok.
Les noirs contre les blancs.
En fait, tout d'abord, ce qui est intéressant aussi, c'est réfléchir sur les concepts. D'où viennent les concepts? Le concept du racisme anti-blanc est un concept qui naît d'une réflexion de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont discriminés dans une société, on leur renvoie l'idée qu'en fait, c'est eux les méchants dans la société. Et aujourd'hui, c'est un concept qui est utilisé par tout le monde, mais sans savoir d'où ça vient. Tout à l'heure, je vous parlais des catégories, la construction des catégories, et défendre l'idée qu'il y a des catégories. Lorsqu'on parle de racisme anti-blanc, c'est pour réactiver l'identité blanche. Parce que peu importe ce que vous pensez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes vu comme une personne blanche, vous vous retrouvez en disant « oui, c'est vrai que ça existe en fait. Nous aussi, nous sommes agressés. » Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire comment on reconstruit les catégories et on fige les catégories. Alors que les personnes qui dénoncent le racisme en règle générale veulent mettre fin aux catégories. Et donc, ce concept-là du racisme anti-blanc, en fait, permet de réactiver l'identité blanche, disant « il y a nous les blancs et il y a les non-blancs ». Et ce sont les non-blancs qui, en fait, sont les vrais racistes.
Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días. Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía. Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía. Y nunca pensé que caminar luego me costaría. Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban. De esa querer volar lejos, mientras al cielo miraba. Todavía recordaba cuando duro trabajaba. Y un derrame en su cerebro, no lo dejó hacer más nada. Me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba. Dijo que su juventud fue como un cuento de hadas. Para un cuerpo decaer el tiempo se necesita hasta la rosa más hermosa. Con el tiempo se marchita el roble. Se va pudiendo el agua, se va consumiendo el humo, desapareciendo y las personas van muriendo. Que su vejez la sintió viendo sus nietos creciendo. Y ahora la siente más que todo, se le está impidiendo. Y yo viendo que todo se va acabando, nada dura para siempre. El cuerpo se va desgastando, el árbol de roble más fuerte algún día se va a caer. Nada dura para siempre, los hijos van a crecer. Es como apegarse a una relación que no nos va a durar, como los hijos que crecen y luego se apartarán. Soy consciente en quien sienta y se basa en lo superficial. No conoce almas y clama por lo material. Dicho viejo refutaba con su cansada voz. Decía, lee la Biblia, cumple exigencias de Dios. Y la muerte siempre quiere verte cerquita su voz. Y los vicios allá te acercan, son un maleficio atroz. Y yo no me hables de vicios. Solo son prejuicios que la misma gente se hizo. Es decisión de cada quien si su vida en la calle mata. Cuánto drogo no se pudre con su plata. Los humanos la cagamos, en terrores la pasamos. Las cagadas son mierda, entre ellas nos revolcamos. Que mucho la caga, se ha subido a un nudo. Porque el mal le pudo, es que Dios me perdone si explico todo tan crudo. Los humanos la cagamos, en terrores la pasamos. Las cagadas son mierda, entre ellas nos revolcamos. Que mucho la caga, se ha subido a un nudo. Porque el mal le pudo, que Dios me perdone si explico todo tan crudo.
Nadie sabe si luego de la muerte podemos vernos. Y reencarnando en un cielo o infierno. Si el infierno que resguardas tú, lo guardas pero en tu yo interno. En tu cielo eres tú, pero en tu lado tierno puede ser compasión. El miedo a sentirse solo, solo cesa con la religión. La soledad en la mente es la peor sensación. Y no te sentirás solo cuando te acompañe Dios. Nadie sabe si luego de la muerte podemos vernos. Nunca, que si el infierno que resguardas tú, lo guardas pero en tu yo interno. Nunca, Cheo Gallego. Pleno de gracia.
Cheo Gallego, El Anciano y El Niño. C'est un titre qui a été choisi par Ismaël. Bonjour Ismaël.
Bonjour.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Bien. C'est toi qui as choisi ce titre. Pourquoi tu l'as choisi?
Parce que j'aime la musique espagnole. Il vient de commencer, il a un grand talent.
L'un des sujets qui a aussi beaucoup intéressé les élèves du lycée Paul Gauguin d'Orléans-la-Source, c'est celui des violences faites aux femmes.
Mathieu Bonneau, vous êtes journaliste fraîchement diplômé de l'IPJ et vous avez travaillé sur ce sujet avec les élèves. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée la préparation ?
On a pris contact avec l'association d'aide aux victimes du Loiret pour rencontrer justement une de ces femmes ayant subi ce genre de violence. Courageuse, elle a accepté de rencontrer 5 élèves. Elle a répondu à leurs questions pour raconter son viol. Ils étaient tous à l'écoute autour de cette table de ce témoignage poignant, alors que cette femme était très émue de revenir sur cette histoire.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ?
J'ai été agressée sexuellement par un ami de la famille qui habitait tout près dans le même immeuble que dans laquelle j'habitais. Donc du coup, c'était quelqu'un qui venait constamment à la maison. C'était pendant le confinement. Pendant ces moments-là, donc du coup, moi, je faisais pas mes nuits. J'avais pris un cachet pour m'endormir. Et l'agresseur en question, il en a profité pendant que moi, du coup, j'étais inconsciente.
Est-ce que quand vous êtes réveillée, vous avez... Je ne sais pas comment formuler la question, mais est-ce qu'elle a...
Peut-être est-ce que vous vous êtes rendu compte...
Oui, voilà, directement, ou ça a pris du temps, le temps que ça vienne?
J'étais un peu shootée, on va dire, avec tout ce que j'avais pris. J'avais pris, du coup, des médicaments donc, d'un seul coup. Donc. Après, je trouvais ça bizarre, parce que j'avais plus mon bas de pyjama, il était plus à fond sur moi. Il était un peu descendu, donc ça, je trouvais ça un peu bizarre. Et par la suite, donc, du coup, je suis allée aux toilettes et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui clochait, tout ça. Donc, j'ai commencé à avoir des flashbacks. Ouais.
Comment vous avez su que c'était lui? Vous avez eu des flashs?
C'était le seul agent masculin, du coup, qui était dans la maison. Donc, effectivement, c'était lui. Et après, il a pas nié les faits.
Il a reconnu les faits?
Oui, il a pas nié. Il a reconnu les faits. Sur le coup, oui, j'étais très traumatisée.
Pourquoi vous avez hésité à porter plainte, du coup, sur le moment?
Sur le moment, j'avais très peur parce que je suis en situation irrégulière. Donc, justement, j'étais accablée. Je me disais, bon, déjà, je voulais pas me faire contrôler. Donc même moi, je me considérais déjà comme une criminelle, donc j'allais pas justement aller à la police en ce moment.
Donc tout s'est bien passé à ce que je vois.
Oui. Ils ont accepté ma plainte, même si on est en situation régulière, on a le droit justement à accéder nos droits en tant que victime et de porter plainte.
Comment vous avez envie de réagir, les filles, les garçons, au témoignage de Sandrine?
Je trouve ça triste, entre guillemets, je sais pas quel mot, quoi dire. Surtout que là, en France, on est dans un pays moderne et que ces crimes-là sont même pas bien punis.
Pour toi, 15 ans, c'est pas assez?
Moi, c'est pour moi, 15 ans, c'est pas assez. Ouais. Alors, j'imagine pas dans les pays qui sont... Parce que des fois, moi, je suis marocaine. Et quand je vois des fois certaines histoires dans ma famille, je me dis... il n'y a aucune plainte, la police s'en fiche. Je me dis, mais...
À quoi tu fais allusion quand tu dis aux histoires dans ma famille?
Des fois, il y a par exemple des violences conjugales où on appelle la police. La police dit oui, on peut pas se déplacer. La nuit, on viendra le matin. Et il laisse la femme, comme ça, seule, avec son homme violent. Je me dis, mais c'est révoltant.
La personne qu'on a rencontrée, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que là, on l'a rencontrée pour un viol qui lui est arrivé il y a un an. Mais elle s'est déjà fait violer une première fois quand elle était plus jeune au sein de sa famille. Personne ne l'a cru dans sa famille, donc c'est là que tu trouves ça touchant qu'elle nous ait raconté aussi cette histoire et que c'était difficile pour elle.
Oui, c'est ça, parce que elle l'a déjà vécu une fois, encore une fois, enfin deux fois, enfin c'est...
Toi, Kéliane, tu semblais moins choquée quand on parlait de l'histoire tout à l'heure que les autres. Pourquoi ça te choque moins d'entendre cette histoire?
Moi, ça me choque moins parce que j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je suis pas choqué en fait. À cause des réseaux sociaux, j'ai l'impression que plus rien me choque.
Après, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on voit énormément de choses comme ça. Et que c'est devenu normal, ce genre de choses, vu que beaucoup de gens en parlent. Donc, on trouve ça beaucoup moins choquant qu'avant.
Ça vous a questionné sur, justement, la place de la femme dans la société, même quand on parle des regards. Est-ce que c'est des choses chez vous qui vous ont fait bouger, qui vous ont surpris, choqué?
Ça donne quelque chose de banal en fait.
Maintenant on a un peu l'habitude, genre, ouais. De nous dire, on nous regarde, ouais, c'est normal.
Anaïs ?
Déjà dans les transports en commun ou des trucs comme ça, des fois ils font des gestes très déplacés.
Quoi par exemple ?
Juste toucher le bras, mais d'une façon qui n'est pas anormale qu'on touche le bras de quelqu'un. Et c'est pas histoire juste de te pousser pour passer. C'est vraiment insistant, et puis après il y avait des regards et tout ça. Et c'était pas un homme qui avait mon âge. Il n'avait pas 15 ans, il avait au moins la quarantaine.
En ce moment, dans les transports orléanais, il y a une campagne qui explique qu'on peut être poursuivi pénalement pour ce genre de comportement. Est-ce que vous pensez que ça va faire vraiment changer les choses ?
Moi, je ne pense pas, parce que qui irait aller porter plainte alors que, enfin, je veux dire, il y a un peu la flemme quoi, d'y aller juste pour ça, alors que ça y est, c'est passé.
Mais en fait, ça arrive tellement souvent d'y aller à chaque fois pour dénoncer quelqu'un.
Ça sert à rien.
C'est une perte de temps.
Ouais, ça ne sert plus à rien. En fait,
là, le problème, c'est que même nous, maintenant, on trouve ça normal, parce que là, même Anaïs et Wallah viennent nous dire, genre, par exemple, juste pour ça, ou ça arrive tellement souvent, que bah, c'est pas normal en fait, qu'on normalise ça, nous. Donc, on ne devrait pas normaliser ça et dénoncer ça plutôt que de normaliser, parce qu'après, les gens vont peut-être trouver ça normal si on ne fait pas des choses.
Oui, c'est ça le problème aujourd'hui. On pense que ça fait partie de la banalité, même se faire violer. Hein. Tellement qu'on en voit partout à peu près de témoignages ou des trucs comme ça, on se dit, bon, bah, ok, ça fait violer et... Bah non, en fait.
Ouais, je pense à ça tout à l'heure.
Ça banalise.
Merci Walia, Salma, Moussa, Anaïs et Kéliane d'avoir raconté votre expérience. Nous avons aussi demandé à Lilian Thuram son regard sur les violences faites aux femmes, que l'on peut écouter maintenant.
Il fut un temps, pas lointain, hein, la violence faite aux femmes était acceptée comme étant... normal. C'était comme ça. On ne pouvait rien faire. D'ailleurs, c'est comme la violence faite aux enfants. Moi, j'ai vécu dans un monde où la violence faite aux enfants, mais n'interpellait personne, parce que c'était comme ça. C'est de la violence pure. Et la violence pure finit toujours par la mort. L'espèce humaine est la seule espèce où les mâles se sont octroyés le droit de tuer les femelles. Vous imaginez un peu ? Il y a tous les ans un nombre considérable de femmes qui sont tuées parce que femmes. Si vous voulez comprendre pourquoi il y a du sexisme dans la société, il faut savoir que c'est historique. Ça veut dire que, historiquement, on a construit la supériorité des hommes sur les femmes. Et vous savez quoi ? Il y a des hommes qui pensent encore que c'est vrai. Et pire encore, il y a aussi des femmes qui pensent que c'est juste.
Pourquoi est-ce que vous participez à beaucoup de projets avec des jeunes ?
Ça ne vous regarde pas, Daniela. Parce que les plus jeunes sont moins conditionnés. C'est-à-dire, plus tu vieillis, plus tu as reçu un conditionnement ou déconditionnement, plus il est difficile de sortir de ces schémas de pensée. Quand je parle du racisme, du sexisme, de l'homophobie, en fait, on parle de violence. Hein. Tu as quel âge, mademoiselle ?
16 ans.
16 ans. Tu as 16 ans. Moi, je n'ai pas de fille, d'accord ? J'ai deux garçons. Si j'avais une fille, ma fille serait dans l'obligation, j'ai bien dit dans l'obligation, hein, dans l'obligation de connaître l'histoire des luttes des femmes pour l'égalité. Elle n'aurait pas le choix. On peut avoir des préjugés sexistes, homophobes, ben parce qu'on ne se rend pas compte. Par exemple, une fois, j'emmenais mon fils au foot. Je crois que c'est vers 12-13 ans, les garçons et les filles sont encore mélangés. Et donc, il faisait des sprints. Et là, il y a un garçon qui fait un sprint avec une fille. Et l'entraîneur, il dit oh, « Attends, tu te fais battre par une fille en plus !» Et donc, après l'entraînement, je vais le voir. Je lui dis « Mais n'importe quoi. Pourquoi tu félicites pas la fille, en fait, toi ? Pourquoi tu dis au mec « Ouais, tu t'es fait battre par une fille ?» Ça n'a pas de sens. Mais je pense qu'il ne se rend pas compte. Ça, c'est un réflexe. Dans les trucs, quand on était plus jeune, il y avait des propos homophobes par les entraîneurs. Ou à la mi-temps des matchs. « Ouais, putain, vous jouez comme des PD, bah, bougez-vous un peu !» Mais c'est totalement homophobe. Sauf que ce sont des choses qui sont intériorisées comme normales dans la société. Il faut que quelqu'un puisse te dire « Oh, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là ? Ça n'a pas de sens. »
Mon coach aussi, il était comme ça.
Ah, le coach aussi ?
Oui.
Mais la prochaine fois, tu diras « Coach, c'est pas moi, mais Monsieur Thuram a dit que... » On ne sait jamais, tu vois. Tu dis, Monsieur Thuram m'a dit, je ne sais pas si je dois partager son avis ou pas. J'aimerais avoir votre réflexion là-dessus. Quand vous dites, ouais, vous n'êtes pas des gonzesses, n'est-ce pas un peu sexiste ? D'accord ? Non, mais les enfants, c'est très important de discuter avec les gens et les emmener à réfléchir.
Victime ou témoin de violences faites aux femmes, des solutions existent. Le 3919, arrêtonslesviolences.gouv.fr et en cas d'urgence le 17 ou le 114 par SMS.
Vous l'avez entendu, les réseaux sociaux sont au cœur des échanges, des discussions, des préoccupations des adolescents du lycée Paul Gauguin à Orléans. Et durant cette année scolaire, le major Jean-Bernard Mignoneau est venu expliquer quels pouvaient être les dangers des réseaux sociaux.
Je fais beaucoup de prévention sur le harcèlement, le cyberharcèlement, l'atteinte à la vie privée et les réseaux sociaux. Je suis sûr que depuis plusieurs années, vous êtes inscrits sur Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok. Mais si je pose la question, tiens, est-ce que vous avez lu les conditions générales d'utilisation avant de mettre la petite croix « j'accepte » avant de s'inscrire ? Eh bien, comme 99% des jeunes, vous ne l'avez pas lu. Parce que si vous aviez lu, vous seriez aperçu que tout ce que vous publiez, photos et vidéos, une fois publié, ne vous appartient plus. Que tout ce que vous avez posté, photos et vidéos, appartiennent à tous les membres de ce même réseau social. C'est-à-dire qu'un exemple, tu postes une photo sur Snapchat ou Instagram, en public. Moi, je suis publicitaire, je prends ta photo, je la mets dans un catalogue publicitaire. Tu ne peux strictement rien dire. Que c'est pas la loi française. C'est pas la loi française qui régit Snapchat, Instagram, autres. C'est la loi d'un tribunal californien des États-Unis d'Amérique. Que rien ne s'efface sur les réseaux sociaux, c'est gardé à vie. Que le fait de mentir sur son nom, prénom et âge, et là, si je pose la question, qui a mis son vrai âge sur les réseaux sociaux, c'est une infraction. C'est un délit fédéral dans les 52 États des États-Unis. Ça s'appelle le parjure. Ça veut dire le mensonge. Eh ben oui, mais vous en riez, mais ça peut avoir des graves incidences. Moi, je prends l'exemple d'une petite fille en CM2, en 2018, qui a saoulé sa mère pour lui offrir un portable. Sa mère lui offre un portable, et puis forcément, elle a 10 ans, elle est née en 2008, et elle veut s'inscrire sur les réseaux sociaux. Et elle s'inscrit, sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook. Mais elle ment sur son âge, vu qu'elle n'a pas l'âge légal pour pouvoir s'inscrire. Parce que je rappelle que chaque réseau social a un âge minimum. Et puis cette petite fille, bah, pour pouvoir s'inscrire, elle ment. Elle ment. Elle dit qu'elle est née en 1998, donc peut s'inscrire sur les réseaux sociaux. Au bout de 3 semaines, elle a 580 amis, forcément qu'elle ne connaît pas. Un soir, elle n'a que 10 ans, et elle reçoit plein de photos de la part d'un jeune qui dit qu'il a 25 ans. Sauf que sur toutes les photos, bah, en parlant vulgairement, il a poil. Il est tout nu sur les photos, avec son sexe à la main. Sauf que la petite fille, elle a que 10 ans. Elle a que 10 ans. Et puis, elle a peur. Effectivement, c'est extrêmement grave qu'un adulte envoie ça à un mineur. C'est une lourde peine de prison. Et puis, bah, cette petite fille, elle en parle à sa mère. « Maman, regarde ce que je viens de recevoir. » Donc, sa mère, elle screen les photos. Elle enregistre toutes les photos. Puis, elle lui dit « Demain matin, on va aller au commissariat pour que je dépose plainte. » Pour ce que tu as reçu, parce qu'il faut que l'individu qui t'a envoyé ça soit puni. Donc elle vient nous voir le lendemain, elle est dirigée vers la brigade des mineurs, la protection de la famille. Puis ma collègue qui la reçoit et dit à la maman, « Mais votre fille, quel âge elle a sur son profil ?»« Bah, elle a 20 ans. » Et ma collègue dit, « Mais je ne peux pas prendre de plainte, madame. Je ne peux pas protéger votre fille. Parce que votre fille, elle a menti sur les réseaux sociaux, elle a menti sur son âge. Je ne peux pas la protéger. » Donc voilà un exemple. Sur les réseaux sociaux. Tous les jours, pratiquement, on a des parents qui viennent nous voir au commissariat en nous disant, voilà, ma fille se retrouve dans un catalogue publicitaire. Ma fille est harcelée sur les réseaux sociaux. Une jeune fille était passionnée par les États-Unis et ses parents lui disent, si t'as ton bac avec mention très bien, on part 3 semaines en vacances aux États-Unis. Donc cette jeune fille a son bac avec mention très bien. Papa et maman lui disent, on va partir en voyage aux États-Unis. Il réserve un voyage pour les États-Unis de 3 semaines, mais pour aller aux États-Unis, passeport biométrique et surtout un ESTA. C'est le visa pour aller aux États-Unis. C'est un document que tu remplis sur Internet, que tu transmets à l'ambassade américaine, où tu as un certain nombre de questions qu'on te pose et tu y réponds. Une fois que tu as rempli ton ESTA, tu peux prendre ton billet d'avion pour aller aux États-Unis. Et donc, la petite famille arrive fin juillet, début août, un des 2 aéroports de New York. Le papa présente son passeport et son ESTA, pas de souci, welcome to the US, comme ils disent là-bas. La maman présente son passeport et son ESTA, pas de souci. Et quand la jeune fille, leur fille, qui était encore mineure, présente son passeport et son ESTA, elle se retrouve entourée de 3 policiers en zone internationale qui lui disent, si vous rentrez sur le territoire américain, vous serez interpellé et placé en détention, c'est-à-dire placé en prison. Les parents ne comprennent pas, parce qu'ils ne sont jamais venus aux États-Unis. La jeune fille ne comprend pas, parce qu'elle n'est jamais venue aux États-Unis. Et là-bas, les policiers de l'immigration expliquent à la jeune fille que quand elle a fait sa demande d'ESTA par rapport à la photo du passeport biométrique, ils ont bien trouvé une jeune fille française. L'Agence de sécurité nationale américaine a bien trouvé une jeune fille française avec le même nom, le même prénom, la même filiation, c'est-à-dire prénom du père et nom de jeune fille et prénom de la mère, sauf que la date de naissance ne correspondait pas. Et la jeune fille a dit « Ah bah oui, mais la date de naissance là que vous me donnez, c'est la date que j'ai mis quand je me suis inscrit sur Facebook il y a plusieurs années. J'avais pas l'âge, j'ai menti sur mon âge. » En France, on s'en fout, ça. C'est pas une infraction. Sauf qu'aux États-Unis, le fait de mentir sur son état civil, sur les réseaux sociaux, qui sont américains, est une infraction. C'est le parjure. C'est le mensonge. Donc, elle n'a pas pu rentrer aux États-Unis. Papa et maman sont retournés en zone internationale avec la jeune fille, ont pris un billet d'avion pour rentrer en France. Ils ont perdu leur voyage, qui n'a jamais été remboursé. Et la jeune fille ne pourra jamais aller aux États-Unis. Sinon, elle sera interpellée, placée en détention. Prenez le temps de lire les conditions générales d'utilisation de Snapchat, Instagram. Vous allez voir tout ce qu'il y a. Allez, ça va vous prendre une demi-heure. Tiens, ça serait un truc à faire en cours, ça, d'étudier les conditions générales. Ben, vous allez être surpris. Parce que vous allez vous rendre compte que tous les jours, ben, vous faites quelque chose qui peut vous nuire.
Alors, on vient d'entendre le major Jean-Bernard Mignoneau. Il vient nous donner des recommandations. Est-ce que vous les suivez, Maëline ?
Personnellement, pas forcément toutes. C'est-à-dire que, par exemple, la case « j'ai lu et compris » entre guillemets ou « accepté les conditions bah, », ça, je le lis pas forcément. Pareil pour mon âge. Je mets pas un âge excessif, mais je mets juste de manière à ce que j'ai 18 ans. Donc, voilà.
Alors que t'as quel âge, en vérité ?
J'ai 16 ans.
Donc, si jamais tu vas aux États-Unis, voilà. Pourrait éventuellement t'arriver la même histoire que celle oui. de la jeune femme dont t'as parlé le major.
Oui.
Maëline, tu as vécu une expérience un peu douloureuse sur les réseaux sociaux.
C'est dans un contexte où j'ai eu des problèmes avec certaines personnes dans la vraie vie. Et ça a poursuivi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils ont continué de m'insulter, etc. Sur les réseaux sociaux. Une fois que bah, tu les bloques, les personnes, bah, elles reviennent avec des faux comptes, des comptes qu'ils ont recréés, etc. Et puis ça repart. Puis quand tu les croises dehors ou dans les couloirs du lycée, bah, ça te regarde et puis ça rigole ou ça fait des remarques.
Tu considères que c'est ce qu'on appelle du harcèlement ?
Bah pour moi, oui, totalement. Parce que c'est récurrent.
Ça continue là aujourd'hui ?
Oui, encore aujourd'hui, oui.
Est-ce que tu as pensé à porter plainte, par exemple ?
Oui, ça m'a traversé l'esprit, sauf que le fait de devoir dire à mes parents que je me fais insulter comme ça, bah, je peux pas. Je veux pas les mêler à ce genre d'histoire.
Je serais curieux d'entendre votre réaction à vous tous qui êtes autour de la table. Par exemple, Romain, quand t'entends voilà, une histoire comme celle de Maëline, est-ce que c'est quelque chose qui te surprend ?
Non, parce que moi aussi, je me suis fait harceler sur les réseaux. C'était il y a 2 ans de ça sur Instagram. Et en gros, c'était des gens de ma classe qui ont créé un groupe et ça s'appelait Romain le Gay. Je tiens quand même à préciser, voilà, je suis hétéro, mais voilà, ce qui s'est passé, ça m'a quand même marqué. Et puis voilà, cette phrase « Romain le gay », ça me marque encore. Et bon, ce nom, c'est peut-être pas grave pour certaines personnes, mais moi, sur le coup, quand j'ai vu le téléphone, ça m'a vraiment choqué. Puis à cause de ça, j'ai perdu totalement confiance en moi.
Et comment tu as vécu les lendemains ? Parce qu'il faut encaisser ça, c'est psychologiquement très dur.
Le lendemain, je suis pas du tout allé en cours, et puis j'ai eu de la chance... Le proviseur et puis ma prof principale ont été super gentils. Et je pense que cet harcèlement, ça m'a traumatisé, je pense.
Comment tu t'armes contre ça ?
J'arrive pas. Je pense que dans 3-4 ans, j'y penserai encore.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui pourraient se laisser aller à ce genre de jeu stupide ?
Bah, ils ont aucune vie, quoi. C'est vraiment désolé, mais c'est des connards, quoi. Ils pensent même pas qu'on peut souffrir à cause de ça.
Pourquoi vous avez le sentiment que c'est si important d'être sur les réseaux sociaux ?
Si on n'est plus trop sur la télé, par exemple, pour mon cas, je ne regarde plus trop la télé, enfin même plus du tout, et ça me permet de tenir quand même au courant des actualités qui se passent et des nouvelles.
Je suis jamais à l'aise dans les cocktails, la foule des villes à gravité, la musique m'emmène loin du bordel, le feu de Johnny Hallyday, rien ne serait pareil sans toi. Pourquoi t'as peur que je t'oublie ? Je pourrais croiser des centaines d'entre elles, les yeux bandés, je t'en trouverai quand même. Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter ? Tout peut t'arriver. Tout peut t'arriver. Le rien n'est grave. J'ai
J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fait un mélange. Juste au cas où, si t'étais seul, t'aurais dû m'appeler. Tout peut arriver, les rien, les graves. Tout peut arriver. J'arrive pas à descendre, le stress m'étrangle. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. Et le diable serait comblé. Sentiment étrange, c'est comme si on dispersait mes cendres. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. La fin de la prophétie se complète. J'arrive pas à descendre, le stress m'étrangle. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. Et le diable sourit comblé. Sentiment étrange, c'est comme si on dispersait mes cendres. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. La fin de la prophétie se complète. Les minutes qu'on va passer ensemble, c'est cool. On vit tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter? Tout peut arriver. Tout peut arriver. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter? Tout peut arriver.
Et pour finir, un dernier échange avec Lilian Thuram qui a particulièrement intéressé les élèves.
J'aimerais vous montrer quelque chose. Lorsque je parle de questionner le point de vue, ça veut dire que chacun de nous, nous parlons de quelque part. Et il faut faire très attention à ne pas penser que ce que nous disons, nous pensons que c'est la vérité, il n'y aurait que cette vérité. Ça, c'est dangereux. Je vais vous montrer cette carte. Est-ce que vous la voyez?
Elle est à l'envers.
Alors, vous voyez la carte? Elle est encore à l'envers?
Là, c'est à l'envers. Non,
mais attendez, mettez-vous d'accord.
Non, elle n'est pas à l'envers.
Non mais mettez-vous d'accord.
Et après, la carte, elle est à l'endroit, frère.
Elle est à l'envers.
Attendez, monsieur, pouvez-vous nous montrer? Ah bah non, l'écriture, elle est à l'envers. Mais le premier truc, c'est à l'envers.
Non.
Voilà, regardez, la France, elle est là-bas, l'Espagne, elle est là, c'est comme ça qu'on voit.
Alors, là, il y a le débat, c'est à l'envers, pas à l'envers, l'Espagne, la France, c'est pas là. Ok. Est-ce qu'on peut dire que le ballon de foot est à l'envers?
Non.
Pourquoi?
Parce que c'est pareil partout.
Parce que le ballon, il est rond.
Ben oui. En fait, la carte traditionnelle que vous connaissez, il y a l'Europe au centre. Nous sommes d'accord? Et sur les cartes traditionnelles que vous connaissez, la Russie paraît plus grande que l'Afrique, alors que l'Afrique, c'est le plus grand continent au monde. Quand je vous montre cette carte-là, ça vous perturbe. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'habitude de voir les choses comme ça. Et donc, c'est pour cela que je vous dis, n'ayez pas peur de questionner vos habitudes. Ben écoutez, on va vous laisser une carte, vous allez la mettre dans la chambre et vous allez débattre. Ok. Comme c'est l'heure, je dois malheureusement terminer. Est-ce que je peux vous demander un cadeau?
Oui.
Ah, t'es mon cadeau ou tu veux me donner un cadeau?
Moi, je veux un cadeau.
J'aimerais que quelqu'un puisse nous faire partager un moment ensemble en chantant une chanson. Qui? Aïssata. Aïssata. Mais toi aussi. Oh, mais quand même.
Monsieur Lilian Thuram, c'est pour vous cette musique.
Aujourd'hui, je suis fatiguée.
Attends. Okay. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entends dire à tes pinko d'adieu, je peux plus me passer de lui.
C'était Interclasse au lycée Paul Gauguin d'Orléans, présenté par Anaëlle Verzeau et Philippe Magnier, production et rédaction en chef, Éric Valmire, réalisation, Lilian Allôme, prise de son, Nicolas Mathias et Sandrine Malou.